Bonsoir. De l'inédit à la une des informés, un ministre qui s'en va, et pas n'importe lequel, et ce malgré l'opposition du chef de l'État. Mais Emmanuel Macron a dû prendre acte de la décision de Gérard Collomb de quitter le gouvernement, alors que la police ce matin a lancé une opération antiterroriste. Nous reviendrons sur cette nouvelle démission, la troisième en un mois, en posant la question: que se passe-t-il au sommet du pouvoir? La lettre étonnante d'un magistrat dans le journal Le Monde, Frédéric Chevalier, qui fut avocat général au procès de Jacqueline Sauvage, lui écrit pour lui dire en quoi elle ne peut être un symbole de la lutte contre les violences conjugales. Faut-il des obsèques nationales pour honorer la mémoire de Charles Aznavour? Nous poserons la question à nos invités. Bonsoir à vous, Marion Mourgue.
Bonsoir.
Grand reporter au service politique du Figaro. Bonsoir à vous également, Emmanuel Pierra, et bienvenue.
Bonsoir.
Avocat, écrivain, vous publiez Nouvelle Morale, Nouvelle Censure. Ce sera le 11 octobre chez Gallimard. Invité également, bonsoir, Romain Mouton.
Bonsoir.
Vous êtes notre communicant, fondateur de l'agence RM Conseil. Et avec nous également, bonsoir à vous, Bruno Cotresse.
Bonsoir Jean-François.
Chez chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique. Vous enseignez à Sciences Po. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Décidément, la République est en marche contrariée depuis la rentrée. Jusqu'au bout, l'exécutif aura essayé de retenir Gérard Collomb, à l'image d'Édouard Philippe, le Premier ministre. C'était cet après-midi lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.
La réponse donc que je ferai constamment, chaque ministre qui compose ce gouvernement doit se consacrer pleinement à sa tâche. J'ai connu comme vous, monsieur Ciotti, des membres du gouvernement qui, à une époque, considéraient qu'il était possible, voire permis, d'être membre du gouvernement et de solliciter un mandat local parfois, et même parfois, monsieur Ciotti, présidentielle. Ni vous, ni moi n'avons jamais dit à ces ministres de l'Intérieur, lorsqu'ils étaient candidats, soit à des municipales, soit à des présidentielles, qu'ils ne se consacraient pas pleinement à leurs tâches. Vous le savez parfaitement. Je vous propose, monsieur le député, de cesser cette hypocrisie.
Alors ça, c'était juste avant que la digne cède, 17h, le même Premier ministre, 3 heures plus tard au Sénat.
Ma réponse sera d'une parfaite clarté. Au terme de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Toute l'action du gouvernement. Et jamais, madame la sénatrice, je ne laisserai le début du commencement d'une hésitation pointée sur ce sujet. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Au terme de l'article 8, il lui revient de proposer au président de la République la nomination ou la fin de fonction d'un certain nombre de ministres, de l'ensemble des membres du gouvernement. Je prendrai mes responsabilités et j'aurai l'occasion de faire au président de la République les propositions que les dispositions constitutionnelles prévoient et réservent au Premier ministre. Je vous remercie.
Voilà, Marion Mourgue, c'est assez rare hein, ce à quoi on a assisté. Apparemment, ce gouvernement navigue à vue.
Oui, quand le Premier ministre parle du début du commencement d'une hésitation, là, je pense qu'on a passé ce stade. Deux des journalistes du Figaro ont été voir Gérard Collomb aujourd'hui et il leur a redit qu'il souhaitait démissionner. Ça a été dans l'après-midi à son bureau Place Beauvau, mais il est clair que depuis des semaines, Gérard Collomb envoie des signaux qui sont assez clairs pour dire qu'il a envie de partir. Et ces signaux ne viennent pas de n'importe quel ministre. C'est quand même le premier des élus qui a accompagné Emmanuel Macron dans sa campagne.
Mais le président a résisté à cette demande expresse, pressante, hein, de Gérard Collomb de démissionner. Il a résisté.
Il a résisté parce qu'il sait très bien le coût politique que le départ va engendrer. Et puis, il y a aussi un problème de casting, c'est-à-dire qui y met à la place. Et là, on revient toujours au manque de personnes de ténor au sein ouais. En marche.
Allez, on continue de faire le tour. Bruno Cotresse, c'est du jamais vu?
Oui, je crois que c'est du jamais vu sur cette manière, au fond, et cette valse hésitation. C'est du jamais vu aussi que sur un poste ministériel comme la place Beauvau, qui est quand même un des ministères les plus importants à l'intérieur du gouvernement, on ait un tel sentiment que le ministre ne s'y sent pas bien ou qu'il a envie, qu'il aspire à autre chose. J'ai remarqué dans la déclaration du Premier ministre, la première déclaration du Premier oui. ministre, on trouve un élément de rhétorique extrêmement intéressant et très macronien. Édouard Philippe, il dit, mais au fond, entre les lignes, Emmanuel Macron, lui-même membre du gouvernement, qui aspirait à devenir président de la République, a quitté le gouvernement. Donc on essaie de redonner de la cohérence et du sens à une opération qui, pour le moment, est une opération d'assez grand cafouillage.
Romain Mouton, c'est invendable, cette histoire, non ?
Mais c'est un bordel total. La réalité, c'est que les gens, depuis deux mois, les Français, on ne comprend plus rien. Là, quand on essaie de comprendre ce que dit le Premier ministre, ces deux déclarations, il se contredit, on ne voit pas quel est le suivi de l'actualité. Tout à l'heure, on essayait même sur Twitter de retracer l'actualité, le fil de la journée, et en fait, il se passe tellement toujours quelque chose qu'il y a un côté totalement illisible à tout ce qui se dit. Et tout ce qui est dit par le gouvernement, tout ce qui est annoncé par le gouvernement, devient obsolète quelques minutes après. Donc là, c'est une séquence qui a été ouverte il y a deux mois maintenant, et qui ne fait que s'enchaîner. Et j'ai le sentiment presque que c'est un peu une sorte de péché d'orgueil de la part d'Emmanuel Macron, parce que si dès la fin du mois d'octobre, du mois d'août, il y avait eu un remaniement de grande ampleur, avec des têtes qui tombent, une purge de ce qui ne va pas, et Gérard Collomb était déjà dans la charrette à ce moment-là, peut-être que les conséquences n'auraient pas été les mêmes.
Emmanuel Pierra, parmi les premières réactions, qu'est-ce que l'on peut dire de ce grognard de la Macronie qui claque la porte malgré ce président qui essaie de le retenir ?
Alors, d'abord, ça me donne l'impression d'être un gouvernement d'otages, c'est-à-dire de gens qui veulent tous s'échapper et qui sont forcés de rester. Nicolas Hulot a dû profiter d'une promenade ou d'une sortie, comme on ferait dans une prison, où d'un seul coup on a droit à 5 minutes de baisse de vigilance des gardiens pour venir à Radio France d'un seul coup et demander l'asile. Gérard Collomb essaie de démissionner, on le retient. Il y a que Françoise Nyssen qui a le syndrome de Stockholm, qui elle était aboniste avant de rentrer au gouvernement, est devenue macronienne et veut pas partir malgré toutes les casseroles qui tottent. Et puis il y a Manuel Valls aussi qui est parti aujourd'hui, qui a fait ses adieux, qui ça me semble pas des signes très positifs. Au-delà de ça, il y a le problème de
il
la communication.
Il n'est
pas dans le gouvernement, mais dans les quelques, quand on regarde les têtes d'affiche, et vous l'aviez relevé, Marion Moore, il n'y en a plus beaucoup.
Il était mal accepté,
mais ça fait quand même partie à la fin d'un départ, en groupe de gens qui ne veulent pas rester. Et moi, je crois très volontiers que Gérard Collomb a très peur du résultat, non pas des municipales, mais des européennes qui vont handicaper son futur résultat au municipal. Il pense que la Macronie va prendre une tôle, au printemps prochain, et qu'il est temps de quitter le navire.
Allez, on en parle dans un instant. 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Après l'opération antiterroriste dans le Nord, l'un des trois gardés à vue sera jugé en comparution immédiate demain pour détention illégale d'armes. Les deux autres membres de l'association musulmane chiite de Grande-Synthe sont libérés. Association visée pour leur soutien apporté à plusieurs organisations terroristes, selon les enquêteurs. Qui pour remplacer Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur ? C'est désormais la question qui agite l'exécutif. Emmanuel Macron avait refusé sa démission hier, mais l'ancien maire de Lyon maintient sa proposition, lui qui veut se présenter aux prochaines municipales à Lyon. La responsabilité des gendarmes est écartée dans l'affaire Adama Traoré, ce jeune homme de 24 ans décédé lors d'une interpellation en 2016. L'expertise finale évoque un pronostic vital qui était déjà engagé avant l'interpellation en raison de ses problèmes de santé. Les proches d'Adama Traoré continuent à dénoncer une bavure. Melania Trump entame sa tournée en Afrique. La première dame des États-Unis est arrivée au Ghana. Elle ira ensuite au Malawi, au Kenya et en Égypte. Une visite, selon elle, diplomatique, mais qu'elle effectue sans son mari. Donald Trump ne s'est d'ailleurs jamais rendu en Afrique en tant que président. Et puis le football, deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. 8 matchs au programme ce soir. À suivre notamment les Lyonnais qui accueillent les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk à 21h.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Gérard Collomb ne pouvait pas rester à son poste. C'est l'avis de Marine Le Pen dans les couloirs de l'Assemblée nationale.
Il est chargé de faire respecter la sécurité dans notre pays, de mettre en place la politique pour éviter la submersion migratoire que l'on connaît. Nous sommes en pleine période de danger terroriste et le ministre de l'Intérieur n'est plus ministre de l'Intérieur. Elle est là, la réalité. Alors, je trouve que déjà avoir refusé sa démission de la part du président de la République est une faute politique. J'espère tout de même qu'il va être désigné quelqu'un, quand même, pour ce rôle essentiel à la préservation de la sécurité de nos compatriotes.
Voilà, c'était Marine Le Pen au moment du flottement, on l'a bien compris. Marion Mourgue, situation intenable vu le contexte de lutte antiterroriste, entre autres.
Oui, entre autres, il y a évidemment la crise migratoire, la menace terroriste, un certain nombre de dossiers importants. Et on voit que depuis plusieurs semaines, l'opposition ciblait Gérard Collomb, notamment aux questions d'actualité. La semaine dernière, au Sénat, il a eu 4 à 5 questions rien que pour lui. Donc on voyait avant même cette deuxième proposition de démission que ça devenait très compliqué pour le ministre et pour le gouvernement, mais aussi pour les forces de l'ordre qui ont besoin d'être représentées au moment où c'est très compliqué sur le terrain.
Alors justement, Emmanuel Pierrat, il y a eu cette opération antiterroriste ce matin à Grande-Synthe visant le siège de l'association chiite Centre Zara France et le domicile de ses principaux dirigeants. 11 interpellations, il y a eu 3 gardes à vue. La lutte antiterroriste continue pendant ce temps et ce ministre n'était plus vraiment à son poste. Quel était le contexte ?
Alors, il y a 2 choses qui sont peut-être très séparées. D'abord, sur la perquisition de ce matin et puis la saisie, le gel des avoirs de 2 Iraniens dans cet endroit du Nord qui est le centre, un centre assez connu pour, on va dire, alors, ils se présentent comme antisionistes, on peut dire qu'ils sont antisémites, c'est plus simple. Donc, c'est des gens chez qui on rentre en marchant sur un drapeau israélien pour montrer le dégoût qu'on aurait éventuellement de tout ce qui peut venir de cette partie du monde. Et puis c'est un centre qui abrite plein de cinglés et de gens très dangereux. Moi ça me rappelle quand j'étais avocat de Michel Houellebecq il y a quelques années, il y avait une association qui nous poursuivait, qui était la Ligue islamique mondiale, qui était autorisée sur le territoire français, avant d'être interdite. Quand on s'est aperçu qu'elle prenait la charia, l'application de la loi islamique. Et cette organisation dans le Nord m'y fait un peu penser. Quand on la regarde et on l'observe, ce sont vraiment des gens assez nauséabonds et assez dangereux. Au-delà de ça, l'absence de Gérard Collomb, elle est manifeste sur beaucoup d'autres dossiers. C'est un mauvais ministre de l'Intérieur, il est temps qu'il s'en aille. On a un tandem important au sommet de l'État qui est normalement police-justice. D'un côté Gérard Collomb, de l'autre côté Nicole Belloubet. Moi, je regarde légèrement en arrière, je me souviens de Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira qui avaient un peu plus de panache, même largement. On a un ministre de l'Intérieur qui est défaillant, sur l'autorité. Un ministre de l'Intérieur, c'est d'abord un ministre, je suis fils de flic, petit-fils de flic, arrière-petit-fils de flic, je suis le seul à être passé dans le barreau.
Vous êtes un peu autorisé à sonder la chose.
J'aime bien les policiers, même si je suis très critique sur les bavures et pas beaucoup d'autres choses. Mais je pense qu'un ministre de l'Intérieur, c'est de l'autorité. Et Gérard Collomb n'en a pas eu. On peut ne pas aimer Manuel Valls, c'est mon cas, et lui reconnaître que quand il était ministre de l'Intérieur, il avait de l'autorité. Bernard Cazeneuve avait l'autorité. De l'autre côté, Gérard Collomb n'a pas eu le recul nécessaire pour éventuellement prendre des distances quand la police fait des erreurs. Les bavures policières, mettons de côté le cas d'Adama Traoré qui est évoqué ce soir de façon particulière, mais il y en a eu 17 importantes en un an, 17 morts. Gérard Collomb n'a pas été à la hauteur. Il y a un moment, il faut dire, la police des polices doit enquêter de la même façon qu'il aurait pu le demander pour l'affaire Benalla.
Mais de votre point de vue, Emmanuel Pierrat, son départ est une bonne nouvelle, si on vous entend.
C'est une bonne nouvelle, je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron voulait le retenir. Oui. À part pour des raisons politiques, qui est simplement, c'est le premier des grognards qu'il a rejoint, etc., etc. C'était le premier à avoir sauté dans la barque. Enfin, c'est quand même pas un compagnon de route de 30 ans. Il est arrivé il y a 2 ans et demi, 3 ans, pour faire simple. Et par ailleurs, pour moi, c'est un mauvais ministre de l'Intérieur qui faisait des fautes et puis qui a une conception aussi de la laïcité pour un ministre de la liberté des cultes qui est très particulière. C'est un ministre très compromis, tout en étant franc-maçon, dans ses rapports avec l'Église catholique à Lyon et dans la laïcité un peu souple qu'il était en train de proposer comme ministre de l'Intérieur. Donc, bon débarras, si je puis me permettre.
Romain Mouton, vous êtes aussi sévère que votre voisin Emmanuel Pierrat ?
Oh, je ne suis pas dans l'affect comme Emmanuel, mais par contre, une chose est sûre, c'est que la faute originelle de Gérard Collomb, ça a été dans l'affaire Benalla. Il s'est totalement défaussé de ses responsabilités. Et à partir de ce moment-là...
Est-il fautif ? On est au mois de juillet. Il est lui-même pris de court par cette affaire.
C'est pas une sorte de faute, là, dans ce cas-là, un jugement. C'est juste, il a quand même remis la faute entièrement sur l'Élysée, alors qu'il semblait être au courant de certaines choses. Oui. Donc à partir de ce moment-là, Emmanuel Macron a constater qu'il n'avait plus un ministre de l'Intérieur fiable, solide, sur qui il pouvait en permanence compter. Donc ça a été le déroulé, après au mois d'août, et ça a été plein de petites choses. C'est pour ça qu'il aurait dû être sacrifié dès la fin du mois d'août.
Alors là, moi je dirais totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'il a justement eu l'impression de servir de fusible pour une affaire qui venait de l'Élysée, et il se disait pourquoi payer alors que cette histoire n'est pas très claire et qu'il voyait le président justement ne pas monter au front assez tôt, selon lui. Donc il a plutôt eu...
Quand on est ministre, on est fusible.
On est fusible, mais pour une affaire là qui était un peu différente des autres.
Voilà. Bruno Cotterêts.
Moi, je partage votre point de vue. On a eu vraiment le sentiment d'avoir devant la commission parlementaire un ministre qui apparaissait, au fond, il s'est détruit lui-même, effectivement, ce jour-là, en donnant le sentiment d'un ministre qui était au courant de rien.
Alors, Bruno Cotresse, est-ce que c'est le point de départ du désamour entre
En tout cas,
Emmanuel
si
Macron
ça n'est pas le point de départ, il est inéluctable que, ça joue un rôle.
Ou est-ce que ça part de plus loin
même,
Est-ce que ça, non,
ça, ça, ça va partir, ça mais part de là. C'est quand même depuis de l'affaire Benalla qu'on voit les signes apparents à l'extérieur de la détérioration de la relation. Mais il y aura deux victimes. Hein. C'est pas seulement Gérard Collomb, parce que partir de cette manière du gouvernement, on ne sait jamais très bien les effets que ça peut avoir. Hein. Le re-atterrissage à la mairie de Lyon n'est pas forcément complètement garanti, mais il y a bien sûr le chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est quand même une sorte de défiance ou un défi vis-à-vis de l'autorité du chef de l'État, qui dans un premier temps retient par la manche, après dit, regrette que Gérard Collomb se soit mis dans les conditions qui obligent à envisager son départ.
Vous voulez dire qu'on n'imagine pas encore, Marion Bourque, les dégâts que ce départ peut provoquer au sommet de la majorité, au sommet de l'État,
hein ? Non, il y a un effet domino de l'affaire Benalla. Et justement, c'est là où commence la rupture entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron. Le ministre se sent totalement humilié, et là, on a plutôt l'impression que c'est une vengeance. Et l'effet qui se coule de l'affaire Benalla qui va se prolonger parce que justement il va falloir retrouver un ministre, il va falloir rassurer la majorité et puis ça offre un boulevard à l'opposition.
Emmanuel Pierrat, vous diriez vous aussi effet domino et cette micro-affaire au fond factuellement provoquerait autant de dégâts ?
Non, elle est surtout révélatrice de la communication très mal maîtrisée du chef de l'État et puis aussi de l'inutilité d'Edouard Philippe, de la Premier ministre qui se contrôle lui-même à 3 heures d'intervalle comme vous l'avez très bien relevé tout à l'heure avec vos extraits d'intervention dans l'hémicycle, mais qui se contredit aussi à quelques jours près, et puis qui vraiment est un Premier ministre fantoche.
Non, vous êtes injuste. En plus de là, vous mélangez Benalla et ce qui s'est passé aujourd'hui, alors qu'il est monté au front sur l'affaire Benalla.
Le désamour a démarré avant. Souvenez-vous, quand même, Gérard Collomb a commencé à désavouer sur des petites choses, la limitation de vitesse sur les nationales. C'est des petites choses, mais qui sont importantes, parce que quelle est l'utilité de prendre la parole sur ça pour contredire la politique gouvernementale ? Aucune, si ce n'est d'essayer de se dire qu'il est peut-être temps, effectivement, de prendre ses distances. Et il aurait dû ou le faire nettement, ou voilà. Moi, en tout cas, une fois, je n'ai pas d'état d'âme, je ne le regretterai pas. Ce qui m'intéresse et ce qui m'inquiète, c'est qui est susceptible de le remplacer.
Alors, justement.
Encore une fois, avec Nicole Belloubet, qui est très faiblarde et pas du tout à la hauteur pour être garde des
sceaux. Vous n'aimez personne, Emmanuel.
Qui pour remplacer Gérard Collomb et quelles conséquences sur la présidence d'Emmanuel Macron en cette rentrée compliquée? Nous en parlerons dans la deuxième partie des informés de France Info. Mais pour l'heure, le rappel de l'info à 20h20 sur France Info, avec vous, Boris Allier.
Une débandade, un véritable cirque du mauvais vaudeville. L'opposition s'empare de la démission de Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur force la main d'Emmanuel Macron et maintient sa proposition. L'Élysée a fini par en prendre acte et le chef de l'État attend des propositions du Premier ministre pour le remplacer. Une autre démission, celle de Manuel Valls de l'Assemblée nationale. L'élu de l'Essonne qui part à la conquête de Barcelone a été ovationné par une partie des députés. La France vous sera toujours reconnaissante, a lancé le chef du gouvernement, Édouard Philippe. Bon débarras, ont écrit les élus de la France insoumise sur des pancartes. En Indonésie, l'aide humanitaire commence à arriver à Palu, sur l'île des Célèbes, après le séisme et le tsunami meurtrier. Le bilan, lui, a été revu à la hausse. Il dépasse désormais les 1200 morts. Des cueilleuses de pois en plein champ, c'est ce que représente le tableau de Pissarro intitulé « La cueillette ». Il avait été confisqué à un collectionneur juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses descendants vont pouvoir le récupérer. C'est ce que confirme la justice alors que l'œuvre avait été rachetée par un couple d'Américains. Et puis le Français Gérard Mourou, lauréat du prix Nobel de physique, il est récompensé avec la Canadienne Donna Strickland pour leurs travaux sur des lasers extrêmement puissants. Le physicien de l'École Polytechnique partage le prix avec l'Américain Arthur Ashkin, lui aussi spécialisé dans les lasers.
France Info. 20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors je voudrais votre sentiment ce soir sur le plateau des informés, sur cette lettre ouverte publiée par le journal Le Monde, qui nous a surpris au moment où TF1 a diffusé le téléfilm Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, signé Yves Régnier. L'auteur de la lettre n'est autre que Frédéric Chevalier, avocat général lors du procès de cette femme victime de violences conjugales qui a tué, il faut le rappeler, de 3 coups de fusil dans le dos son mari, ce mari qui l'a batté. Pour le magistrat qui était l'invité de Nicolas Taillard sur France Info, Jacqueline Sauvage est devenue le symbole inadapté d'un fait majeur de société. Pourquoi ? Voici sa réponse.
Parce que si on y réfléchit un instant ensemble, nous sommes devant une énorme contradiction. Nous disons donc, si je suis Jacqueline, nous disons donc que lorsque je suis femme battue, aujourd'hui, en 2018, je dois me faire justice moi-même. Et tout le monde applaudira. Et l'herbe repoussera plus vite je ne sais où. Je ne peux pas l'entendre en tant que magistrat, vous ne pouvez pas l'entendre en tant que citoyen civilisé. On a fait une grande avancée, c'est de d'imaginer que l'État, la justice, pourrait, à la place des victimes, rendre une décision apaisée.
Marion Mourgue, vous partagez le point de vue de ce magistrat. Jacqueline Sauvage ne peut pas incarner la lutte contre les violences faites aux femmes.
Non, j'ai du mal devant ce raccourci. Je connais peu l'affaire, mais il me semble que, un, elle a payé après cet acte et qu'en plus, on peut considérer qu'il y a une légitime défense. Donc ce raccourci me paraît peut-être très masculin vis-à-vis d'une affaire qui est faite avec une atteinte aux femmes et une violence.
Emmanuel Pierra, vous êtes avocat, je le rappelle. Jacqueline Sauvage était devenue un sujet de société alors qu'elle était peut-être un sujet judiciaire, comme cela a été dit.
C'est les deux. C'est à la fois un dossier qui est criminel qui a été présenté devant une cour d'assises. Et c'est une vraie question de savoir s'il était opportun de poursuivre Jacqueline Sauvage dans ces conditions, devant une cour d'assises, avec des chefs de mise en examen qui sont extrêmement graves, en connaissant ce qu'elle a subi, ce qu'elle a vécu. C'est en même temps devenu un symbole important. C'est très difficile de trouver des symboles qui soient, on va dire, irréprochables. Cet avocat général a l'air de dire « Oui, mais Jacqueline Sauvage a quand même tué son mari ». Oui, c'est vrai, elle l'a tué parce qu'il la battait. Il dit dans cette lettre ouverte, elle n'a pas réussi à nous convaincre et à prouver qu'elle était battue par son mari. J'oserais dire que c'est assez difficile, effectivement, si vous n'allez pas au commissariat dans l'heure qui suit le moment où vous prenez des coups, de le démontrer. Donc à cette aune-là, aucune femme ne serait recevable pour se plaindre des violences conjugales. Moi, ce que j'observe, c'est que, au-delà du problème du devoir de réserve, il y a quand même un petit souci.
Vous parlez du magistrat qui s'exprime.
Du magistrat qui s'exprime, oui. Qui est toujours par ailleurs en fonction dans le même département, dans le Loir-et-Cher, où il est avocat général, où il est procureur, où il requiert également aux assises. Je ne sais pas comment il faut interpréter la prise de parole sur une affaire qui a été jugée devant une première cour d'assises où il a requéri, devant une deuxième cour d'assises en appel et sur laquelle est intervenue une grâce présidentielle et qu'il commente alors que les magistrats et les citoyens, les magistrats qui ont jugé et les citoyens qui ont participé se sont tus. Je ne suis pas sûr que ce soit dans son rôle, mais en même temps, il est dans la concurrence. Les procureurs font tous désormais des conférences de presse dès qu'il y a une garde à vue ou une mise en examen.
Ça, c'est la parenthèse, je n'ai pas d'accord avec ça. Bon.
Au-delà de ça, je pense qu'il a une incapacité de la part de certains magistrats à reconnaître ce qu'est une erreur de la justice, une erreur judiciaire. Jacqueline Sauvage a été condamnée à 10 ans de prison. Peut-être que ça n'était pas légitime. Peut-être que ça n'était pas opportun. Peut-être qu'il faut se souvenir d'Omar Haddad, qui n'a pas encore été déjugé, entre guillemets. Peut-être qu'il faut se souvenir d'Outreau. Et peut-être qu'il faudrait que la justice, de temps en temps, soit capable de se regarder dans le miroir et de dire « on s'est trompé ». On a poursuivi une femme, on l'a demandé 10 ans de prison, et peut-être qu'on aurait dû être plus modéré et plus retenu.
Romain Mouton, cette lettre, vous me l'avez dit hors micro, vous a fait réagir également.
Oui, j'étais très mal à l'aise en lisant cette lettre tout à l'heure. Ça donne un peu la nausée de sentir cet homme qui défend sa corporation, qui est une sorte, il y a une sorte d'aigreur quand on lit ce qu'il dit. Il dit « vous nous avez privé d'un procès ». À croire que finalement, c'est plus important pour lui de faire joujou avec son outil qui est le pouvoir de juger, plutôt que de pouvoir se remettre en cause et d'avoir une femme devant lui qui a été victime de coups. D'ailleurs, c'est oui, on ne sait pas combien de fois vous avez été battu, on ne sait pas si sur telle année vous avez été battu ou pas. Enfin, oui, c'est effectivement pas la solution de tuer pour se défendre, mais on est hors sujet dans cette tribune.
Bruno Cotterêts, quelle est la légitimité, au fond, pour incarner la lutte contre les violences conjugales?
En tout cas, en ce qui concerne cette lettre publiée par un magistrat, ce que je trouve extrêmement choquant, c'est le fait qu'on est totalement sorti de l'enceinte judiciaire. Il a envie de refaire le match. C'est tout à fait scandaleux de la part d'un magistrat professionnel. Il le dit en public, c'est encore plus scandaleux. Et au-delà de ça, il y a une dimension profondément choquante au plan purement humain, que cet homme, même serait-il intimement convaincu que la justice ne peut pas se tromper, qu'il n'est pas un simple réflexe humain de dire il faut fiche la paix à cette femme et il vaut mieux se taire plutôt que de publier ça. C'est tout à fait consternant. Je dirais, c'est vraiment consternant. Ça dit quelque chose aussi peut-être sur est-ce que l'institution judiciaire est totalement est-ce que c'est une institution qui va si bien que ça. Enfin, ça dit tout un tas de choses, mais au simple plan du citoyen ou même au simple plan purement humain, c'est incroyablement choquant. Quand j'ai lu la lettre, j'étais ligne après ligne consterné par de voir cette presque cruauté qui est faite à cette femme, de revenir sur le sujet.
Allez, fin de la première partie des Informés de France Info. Dans un instant, nous revenons sur les conséquences de la décision de Gérard Collomb de démissionner du gouvernement. Ce sera après la météo et après le retour de l'info.
Et si, en Amérique du Nord, nos vignobles français doivent séduire une clientèle experte, d'où le recrutement de Kim, notre petit prodige, œnologue de formation, en mission VIE pour un an.
En effet, je m'occupe de l'animation du réseau de distributeurs. I love meeting people all over the states. J'adore rencontrer des gens à travers tout le pays. It's awesome.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Business France offre une solution RH de mobilité internationale gagnant-gagnant pour les jeunes talents et les entreprises. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Avoir mal au dos, ça arrive. Ne pas faire son footing, ça arrive souvent ça. Ça arrive aussi d'avoir du mal à arrêter de fumer. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est que vous vous retrouviez sans solution.
Pour Malakoff Médéric, quand on est une complémentaire santé, vous aimer avec 2M, c'est vous permettre de proposer à vos salariés un coaching santé personnalisé pour prendre soin de leur dos, de leur nutrition et pratiquer une activité physique. Malakoff Médéric, on vous aime avec 2M. Offre soumise à condition. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur malakoffmédéric.com.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Demain, ce sont surtout les nuages qui vont occuper le ciel du Finistère au bassin d'Arcachon jusqu'au Massif central, à l'Île-de-France, au Jura et aux frontières allemandes. Par endroits, de la bruine est même possible. L'après-midi, ces petites gouttes se feront essentiellement remarquer sur le nord-est alors que la couche nuageuse va tendre à se morceler sur les régions de l'ouest. Des éclaircies vont aussi se dessiner au nord de la Seine en matinée, puis entre les Ardennes et l'Alsace demain après-midi. Le temps sera plus clément et bien ensoleillé sur les zones les plus méridionales, des Landes aux Pyrénées jusqu'aux régions méditerranéennes ainsi que sur les Alpes. De belles éclaircies vont aussi gagner le sud d'Auvergne et le Lyonnais demain après-midi. A noter que le vent sera encore bien sensible sur le sud-est. L'ambiance va se radoucir avec des températures en forte hausse, les maximales variant entre 16 et 27 degrés et les minimales affichant 8 à 15 degrés.
Pour l'achat de votre appartement neuf, choisissez un appartement certifié NF Habitat. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François. Gérard Collomb est sur le départ. Le ministre de l'Intérieur force la main d'Emmanuel Macron qui avait refusé une première fois son départ hier soir. Mais Gérard Collomb en a remis une couche cet après-midi, obligeant le président de la République à demander au Premier ministre de lui faire des propositions. Marine Le Pen évoque un cirque Pinder. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, parle de Grand Guignol. Un spectacle de déconfiture pour le secrétaire national du PCF Pierre Laurent. Pour le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, Gérard Collomb fait tout simplement un bras d'honneur à Emmanuel Macron. Le député Les Républicains de Lyon, Guillaume Larrivé, demande lui à l'exécutif de clarifier au plus vite la situation.
L'attitude d'Emmanuel Macron et de Gérard Collomb n'est pas très sérieuse. Le ministère de l'Intérieur a besoin d'un chef. La place Beauvau a besoin d'un patron. Et la vérité, c'est que depuis plusieurs mois déjà, la place Beauvau n'a plus de patron. On a un ministre de l'Intérieur qui est ailleurs. Je l'ai vu moi-même lorsque j'étais co-rapporteur de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Le ministre de l'Intérieur était extrêmement fuyant, connaissant très peu ses dossiers. Et aujourd'hui, Gérard Collomb démontre qu'il n'est évidemment plus le patron de la place Beauvau. Il est urgent, dans l'intérêt de l'État, qu'il soit remplacé, et qu'il soit remplacé, si possible, par une personnalité plus apte à effectuer cette mission éminente pour notre nation.
Guillaume Larrivé, le député Les Républicains de Lyon, ce serait le septième ministre à partir du gouvernement depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président de la République est attendu demain au Salon de l'Automobile à Paris après un conseil de défense et un conseil des ministres dans la matinée. Les Insoumis ont perturbé les adieux de Manuel Valls à l'Assemblée, brandissant des pancartes « Bon débarras » lors de son discours d'adieu aux députés. Tandis que les élus de la majorité ovationnés debout, l'ancien Premier ministre applaudit aussi sur les bancs de la droite. Il n'y a pas eu que des psychodrames au Palais Bourbon. Une loi aussi a été votée, adoptée définitivement par 227 voix pour contre 136. C'est la loi sur l'agriculture et l'alimentation, dont l'objectif est de réformer la construction des prix agricoles, mais aussi de favoriser les cultures. Un morceau de prix Nobel de physique pour un Français, Gérard Mourou, il le partage avec la Canadienne Donna Strickland et l'Américain Arthur Ashkin pour leurs travaux sur les lasers et l'optique. Et puis du football, ce soir avec la deuxième journée de la Ligue des Champions, Lyon reçoit Donetsk à partir de 21h, un partout pour l'instant entre Offenheim et Manchester City, et en Ligue 2, toujours 0-0 entre Béziers et Lens. 20h33, les informés, Jean-François Aki.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro, Emmanuel Pierra, avocat, écrivain, qui publie Nouvelle Morale, Nouvelle Censure le 11 octobre, il faut attendre un petit peu, chez Gallimard, Romain Mouton, communicant, fondateur de l'agence RM Conseil, Bruno Cotresse, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique, vous enseignez à Sciences Po. Alors que se passe-t-il au sommet du pouvoir et qui va succéder à Gérard Collomb? Trois ministres ont déjà donné leur démission depuis la rentrée. Il y a eu l'affaire Benalla, les mots du président à l'adresse du chômeur, prié de traverser la rue pour trouver un emploi, la polémique sur la photo aux Antilles, on va y revenir. Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, voit dans le départ de Gérard Collomb un signe de déliquescence du pouvoir.
Un ministre de l'Intérieur démissionnaire, un président de la République et un gouvernement qui ne savent plus à quoi s'en tenir, c'est un signe de plus de la déliquescence de ce pouvoir. Nous verrons bien, attendons. C'est, si ce n'était pas des sujets aussi graves qui concernent la protection des Français, ça serait, je dirais, le comble du ridicule de voir ce pouvoir, ce président de la République, qui voit un après l'autre ses ministres lui échapper.
Marion Mourgue, on va essayer de prendre un petit peu de recul ce soir. La succession des événements depuis quelques semaines, est-ce nous qui donnons des coups de projecteur un peu excessifs sur les choses où il se passe vraiment quelque chose au sommet du pouvoir?
Il se passe quelque chose parce que c'est devenu illisible. C'est-à-dire que la première année, alors certes le contexte politique était plus facile pour Emmanuel Macron, mais les Français comprenaient là où il voulait les emmener. Il comprenait à la fois le projet de société, les réformes, et il y avait l'idée que ça allait dans le bon sens. Aujourd'hui, les Français ne comprennent plus et ils ont des perceptions comme ça, parfois très brutales, sur comme la photo des Antilles,
en détail tout
comme l'affaire Benalla. Et donc, il y a une série de heurts et ils n'arrivent plus à comprendre. Et il faut aussi se souvenir qu'Emmanuel Macron avait annoncé qu'il ne voulait plus de couacs. Là, c'est vraiment ce qu'on appelait des couacs dans l'ancien monde.
Emmanuel Pierra, comment est-ce que vous voyez, vous, ces trois démissions successives? C'est le hasard ou bien il se passe réellement quelque chose de l'ordre du malaise?
Non, il y a des cas qui sont très différents. Hein, je pense vraiment que
Nicolas Hulot s'en va.
Non, Nicolas Hulot s'en va pour un intérêt général, une cause vraiment. Alors que Gérard Collomb, il s'en va, uniquement pour sa propre carrière personnelle ou sa fin de carrière personnelle, quels que soient les désirs de Cohn-Bendit de vouloir qu'il aille pointer à la retraite. Il y a des cas très séparés, mais il y a quand même une ambiance générale qui fait qu'on a effectivement l'absence, je pense, de relève derrière aussi. Il y a non seulement un gouvernement qui est très fragile et très faible, avec des personnalités qui ne tiennent pas la route, recrutés dans la société civile. On a vu ce que ça a donné. Ça donne des Françoise Dyssen et des ministres qui ne sont pas très solides du tout. Enfin, pas du tout solides, pardon. Et puis des politiques qui, au bout d'un moment, sentent très vite le vent tourner et repartent d'où ils sont venus, entre guillemets.
Vous êtes sévère, hein, vous, ce soir, là-dessus.
Oui,
hein.
Il remontait ouais.
Oui,
comme
je suis sévère, mais j'ai pas toujours été si sévère. J'ai plutôt été bienveillant. Mais le constat est qu'un an et demi après, on a l'impression que le mandat présidentiel est déjà terminé, qu'on est au bout. On est aussi exempt que sous François Hollande. Au bout de 5 ans.
Romain Mouton, vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous entends protester là.
Mais Emmanuel est dans l'excès et dans la caricature. La réalité, c'est que c'est en pire pour Emmanuel Macron. C'est que c'est au moment où il fait des annonces de plans qui sont reconnus unanimement par les experts, en tout cas dans le sectoriel, comme étant des bons plans. le plan pauvreté, le plan sur la réforme de la santé, et donc il y a une succession d'annonces, le plan, on peut pas aller jusqu'au plan vélo, enfin, il y a une succession d'annonces qui sont le fruit de travail de plusieurs mois, concertés, etc., qui sont totalement inaudibles. Inaudibles à cause d'un problème de casting. Et comme Emmanuel Macron ne veut pas, notamment, et comme Emmanuel Macron ne veut pas se laisser dicter quoi que ce soit, du coup, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de péché d'orgueil.
C'est le communicant qui analyse, qui décrypte. Hein,
oui, mais je suis là pour ça.
Oui.
Non, mais c'est alors, une sorte de péché d'orgueil et qui fait que du coup, il ne remanie pas.
Bruno Cotterêts, ça n'est qu'un problème de communication où il y a finalement un bon programme qui se déroule et une pollution au fond périphérique avec des affaires qui viennent se greffer là-dessus
Le pouvoir, quand il est en difficulté dans les sondages, je voudrais toujours expliquer, il a un très bon plan, il a raison sur le fond. Il faut de la pédagogie et il faut se rapprocher des Français et aller au contact, comme dit Emmanuel Macron. Mais ça, on l'a vu, tous les présidents l'ont fait. Tous les présidents, lorsqu'ils ont abordé des difficultés, ont toujours essayé de ressusciter la narration initiale, le contact direct avec les gens. Mais en fait, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a d'autres problèmes et notamment, il y a des problèmes qui sont ceux du point de départ de toute l'histoire. Le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu. Il a eu lieu, ce premier tour.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
En fait, le problème, c'est le vote, c'est ça ? Oui.
Non, le premier tour a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais leur priorité, leur premier choix, a été exprimé lors du premier tour. Il est faux de dire que le seul clivage politique que connaît la vie politique française aujourd'hui serait le clivage entre les modernistes ouverts et les conservateurs fermés, etc. C'est un des clivages. Le premier tour a eu lieu et au fond, des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour, sur une logique, on va dire, de bloquer Marine Le Pen ou sur une logique, on va dire, d'avoir un président jeune, nouveau, etc.
Oui.
Ben, ces électorats, aujourd'hui, ils s'y retrouvent pas. Et ça commence. Le travail du temps. Le temps fait son travail.
Vous voulez dire quoi? Nous sommes revenus au climat du
premier tour. Le temps fait son travail. Oui. Et au bout d'un moment, des électeurs, par exemple, de gauche, commence à dire, bah, finalement, il n'y a personne pour incarner la gauche aujourd'hui, mais quand est-ce que ça va se faire? Il y a des électeurs de droite qui ont voté François Fillon. François Fillon fait 20%.
C'est vrai.
Marine Le Pen se qualifie avec 21%. Et donc, tout ça est en toile de fond, et à un moment donné, ça va réapparaître.
Vous êtes d'accord avec ça, vous, Marion Mourgue? On revient, au fond, les rivières retrouvent leur lit.
Oui, c'est très juste. On revient aux quatre blocs du premier tour de la présidentielle, et on voit qu'il y a des défections à gauche, à droite, sur des thématiques qui sont différentes, si ce n'est qu'il y a quand même celle du pouvoir d'achat qui réunit l'ensemble des Français en opposition au gouvernement. Là encore, il y a l'idée que ce n'était pas forcément la promesse de campagne qui ont été vendues. Et autre point, c'est aussi que la majorité présidentielle manque de relais d'élus locaux pour vendre les réformes sur le terrain. À la fois, les députés sont peu présents et puis le gouvernement a aussi exprimé un mépris vis-à-vis des députés, des maires, des sénateurs. Et donc tout ça, ça manque aussi après pour faire le service après-vente.
Allez, on poursuit l'analyse à 20h40 sur France Info. Ce sera après le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
La brouille entre Paris et Téhéran. La France met en cause l'Iran dans un projet d'attentat contre un rassemblement d'opposants à Villepinte le 30 juin dernier. Un acte qui ne pouvait rester sans réponse selon les autorités. Les avoirs en France de deux ressortissants iraniens ont donc été gelés. Ceux d'une antenne du ministère iranien du renseignement également. Après Nicolas Hulot, il y a quelques semaines, c'est au tour de Gérard Collomb de quitter le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur maintient sa proposition de démission. Il assure vouloir se concentrer sur les prochaines municipales. Démission finalement acceptée par Emmanuel Macron qui regrette qu'il se soit lui-même mis dans cette situation. 11 corps de migrants repêchés au large du Maroc. Ils étaient à bord d'une embarcation non loin de la ville de Nador. 32 personnes venant d'Afrique subsaharienne ont pu être repêchées selon les autorités marocaines. Le Parlement européen annule une aide de 70 millions d'euros pour la Turquie. La grande majorité des eurodéputés se prononcent pour cette annulation. Ils entendent sanctionner les violations des droits de l'homme et de la presse dans le pays. Et puis sa mission, relancer le club qui stagne à la 19e place de la Ligue 1 de football. Vahid Halilhodžić est nommé entraîneur du FC Nantes. Il remplace le Portugais Miguel Cardoso, renvoyé par la direction. L'ancien entraîneur de Lille, du PSG, mais aussi des sélections algériennes et japonaises, a lui pris ses fonctions cet après-midi.
France Info.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Et puis il y a eu cette polémique qui est venue effacer ou presque les 4 jours de voyage sur le terrain aux Antilles du président Emmanuel Macron. Cette photo du président à Saint-Martin avec deux jeunes gens, deux jeunes Antillais qui encadrent le chef de l'État. L'un d'eux fait un doigt d'honneur. Marine Le Pen a aussitôt bondi sur Twitter en criant son indignation impardonnable, a écrit la présidente du Rassemblement National. Et le chef de l'État lui a répondu en conférence de presse avant de quitter les Antilles.
Ce qui fait que je me suis battu pour être élu face à Marine Le Pen et que je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aime chaque enfant de la République, quelles que soient ses bêtises. Parce que bien souvent, parce que c'est un enfant de la République, il n'a pas choisi l'endroit où il est né. Et il n'a pas eu la chance de ne pas en faire.
Marion Mourgue, le président a eu raison de placer la polémique sur le terrain du racisme.
Non, parce que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand on voit la photo et qu'on la voit ici alors qu'il est en déplacement, on se dit qu'il y a quand même une sorte d'abaissement de la fonction. Sous aucun président, on a vu comme ça des interlocuteurs qui étaient sans chemise. Moi, c'est surtout ça qui m'a frappé. Surtout que le doigt d'honneur, on le voit dans un deuxième temps. Alors, c'est tout aussi condamnable. Mais déjà, cette position entre deux jeunes hommes torse nu, on a envie de dire, c'est lui qui avait demandé à un jeune étudiant de considérer la fonction et de ne pas l'appeler Manu. Bon, ben voilà, là, pareil.
Emmanuel Pierra, cette photo vous a fait bondir également, ou pas ?
Elle me fait moyennement bondir. C'est pas la grande indignation, mais c'est encore une fois le révélateur d'un problème plus profond. Qu'est-ce qu'on nous a vendu ? Vous le releviez très bien tout à l'heure, Bruno Cottès. Il y a l'effacement du clivage gauche-droite. Moi, je crois profondément à ce clivage. Je suis un électeur de gauche. J'ai voté Macron contre mon gré parce que, évidemment, je ne pourrais jamais voter pour Marine Le Pen ou le laisser faire. Mais je reviens dans mon précaré. Mon seul souci aujourd'hui, c'est que Olivier Faure ne tient pas la route, que Mélenchon n'est... Voilà, Mélenchon et Mélenchon. Et pour le reste, il n'y a pas grand monde. Donc, il y a quand même un petit avantage au président, malgré tout, par défaut. Mais sur le fond... tout à l'heure, Romain Mouton dit il y a le plan pauvreté qui vient d'être lancé. Il devait être lancé en juillet, il a été repoussé par Emmanuel Macron en raison de la Coupe du Monde de football. Moi, ça m'a laissé sur le flanc, vous voyez, qu'on puisse repousser. Et donc, en termes de communication, c'était très mauvais, en termes de fond, catastrophique. 3 jours ou 4 jours aux Antilles, c'était important. C'était l'occasion de parler des pesticides et
ça a été le cas.
De la crise, bien sûr, des algues. C'était l'occasion éventuellement de parler des mécésaires ou de revenir, même de faire des déclarations.
Pour les médias.
Non, moi je m'attendais éventuellement même à une déclaration sur l'esclavage, qui aurait été plutôt bienvenue. Après avoir parlé de la repentance et de la mémoire sur la guerre d'Algérie, il était peut-être temps de faire un pas sur l'esclavage. Le résultat, c'est que tout ça est réduit en miettes pour une photo mal maîtrisé. Alors, et pour avoir il faut nous faire du jeunisme qui me semble de très mauvais augure.
Donc
la photo ne me choque pas. C'est pas le contenu de la photo qui me choque, c'est le côté dévastateur et le bilan réduit à néant de ce qui était quand même une expérience présidentielle un peu longue et la plus prolongée aux Antilles depuis des années.
Romain Mouton, une photo et tout est oublié, c'est
ça ? Mais tout est bon pour taper sur Macron, en fait. Ça m'oblige à être bientôt avocat d'Emmanuel Macron. Tout le monde tape sur Macron pour n'importe quoi et pour tout le temps. Là, il y a une photo. Il y a une photo, c'est extraordinaire. Une photo et on ne parle que de ça. C'est-à-dire que pendant tout le déplacement, il a fait le job sur l'outre-mer. Il a même pris la peine. Et c'était alors là, ses équipes de com doivent être catastrophées. C'est qu'il a fait du off avec tous les médias. Il a vu le JDD. Le JDD en a fait des
stories. Il a vu ça a été publié. Etc. Ça n'a rien à voir avec du off.
Non, mais il a fait du off. Il a vu des journalistes pour les traiter. Ce que je veux dire, c'est que tout a été gâché pour une photo qui a été...
Mais vous êtes un communicant moderne, j'imagine. Vous comprenez qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, tout va si vite.
Ah non, mais je comprends le mécanisme qui fait...
Vous êtes à la merci de n'importe quel petit cliché ou autre,
de travers. Oui, je comprends le mécanisme qui fait que cette photo fait un buzz. Sauf que la réalité, c'est
que...
Oui, ça, non, mon métier, c'est pas de faire un buzz sur une photo.
Mais de comprendre ces mécaniques-là.
Je comprends le mécanisme. Mais de là à dire qu'on reproche à Emmanuel Macron d'être avec des gens torse nus. Je suis pas d'accord avec Marion, on pourra toujours retrouver des politiques qui ont été en présence de gens torse nus. Il s'avère qu'en plus de ça, on est outre-mer.
C'est quand même le président qui a fait tout un laïus sur la fonction et sur la considération qu'on devait avoir pour la fonction.
Il y a une grande différence entre appeler Manu.
Il faut pas être ni naïf, ni dans la
matérialisation. Marion, il y a une grande différence entre être torse nu et appeler le président de la République Manu. Je vous rappelle juste qu'on est outre-mer, qu'il fait chaud, qu'on est après, on est au milieu d'une situation catastrophique sur le plan humanitaire et sur le plan humain. Donc c'est juste, ils sont juste torse nu outre-mer. Allez outre-mer et vous verrez que les gens sont plus torse nu que habillés.
Enfin, c'est Bruno Cottrez.
C'est bizarre cette considération. L'ancien communicant de la ministre de l'Outre-mer,
pardon,
c'est assez bizarre.
Bruno Cottrez, Manu, c'est un gamin, c'est un adolescent. On peut vraiment, il cherche, faut pas surinterpréter la manière dont il a appelé le président ce jour-là. Moi, ce qui me vraiment me marque le plus, c'est pas vraiment la photo, etc. Ce qui me marque le plus, c'est le sentiment que nous donne le président à travers ce déplacement, qu'il court après quelque chose qu'il semble avoir perdu. Il nous fait passer le message, au fond, qu'il dit lui-même, d'une certaine manière, qu'il aurait un peu perdu le contact et qu'il faut réamorcer la pompe à faire du contact, comme il dit, avec les gens. Mais il se trouve que cette dimension, Emmanuel Macron, il court après pratiquement depuis le début. Au Cevipof, on a réalisé une très grande enquête pendant toute la période électorale de 2017, un gigantesque panel sur plus de 20 000 électeurs français, et on mesurait régulièrement les qualités que les Français attribuaient à chacun des candidats à la présidentielle. Il y a une qualité qu'Emmanuel Macron n'avait jamais comme point fort, c'était l'empathie.
C'est un point faible du chef de l'État.
Être perçu comme proche des gens. Il était très vite perçu comme ayant les épaules d'un chef de l'État, comme ayant le profil du job.
Pourtant, la dimension empathique. Pourtant, on le voit au contact des populations.
Mais ça n'a rien à voir. L'empathie dont on parle, ça n'est pas celle-là. Voilà. L'empathie, c'est plutôt comprendre la vie des citoyens ordinaires, au sens ne pas incarner, effectivement, de ce point de vue-là, le passage avec l'horticulteur était tout à fait catastrophique, parce que lui donne un sentiment de demande qui n'arrive pas à communiquer. Donc, cette empathie, c'est être proche par les décisions de politique publique des gens qui n'ont rien. Emmanuel Macron dit « mais moi je m'occupe de la pauvreté ». Il vient même de dire « rien n'est plus important à mes yeux que la pauvreté ». Mais les Français n'ont pas exactement ce point de vue sur ces politiques.
Alors Marion Mourgue, est-ce que la succession de Gérard Collomb peut être, on va dire, l'occasion de rebondir? Et d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, qui pour succéder au ministre démissionnaire, selon vous?
Le ministère de l'Intérieur est un ministère très important où généralement on met un proche. Il serait donc plus logique que ça aille vers ceux qui l'ont accompagné pendant la campagne, comme Christophe Castaner, plutôt que Gérald Darmanin ou Frédéric Pechetard, qui sont des noms qui reviennent, mais qui sont à la base des sarkozystes. Ensuite, est-ce qu'un remaniement lui permet de reprendre la main? Ça peut. Là, ça paraît compliqué.
Emmanuel Pierrat, un profil de policier ou un politique pour ce fauteuil Place Beauvau?
Sans doute un politique, parce que, encore une fois, les ministres techniques qui ont été sortis de la société civile n'ont pas fonctionné. Il y en a beaucoup trop et il manque de ténor politique, il manque de voix politique, de gens qui ont l'habitude de faire des matinales, de faire des tribunes et de s'exprimer publiquement. Aujourd'hui, des techniciens, il y en a au ministère de l'Intérieur. C'est pas ce qui manque. On peut trouver d'un très bon chef de cabinet, un très bon directeur, etc. Il y a de très bons officiers de police qui sont parfaitement capables de tenir la boutique. Mais il faut quelqu'un pour incarner la voix. Il faut quelqu'un pour aussi rassurer les policiers. Un taux de suicide très important. Tout à l'heure, je tapais sur la police, sur les bavures. Mais de l'autre côté, c'est un corps de professionnel qui est très meurtri et qui ne va pas bien. Et donc, il faut quelqu'un capable d'empathie, là, pour le coup, et de savoir parler le bon langage. Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle d'un technicien.
Romain Mouton, vous avez une petite idée, peut-être, du profil, du moins, ou même, voire une personnalité qui serait idéale?
À mon sens, il faut clairement un politique qui refasse plus de terrain, qui incarne plus la fonction et qui soit capable d'être un porte-parole d'Emmanuel Macron sur d'autres réformes que uniquement l'intérieur, même s'il devra se concentrer sur son job premier, mais qui soit aussi capable de faire le SAV des réformes du gouvernement et qu'il y ait un nouveau poids lourd médiatique.
Allez, la réponse devrait arriver assez rapidement. 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Emmanuel Macron attend les propositions d'Édouard Philippe pour un nouveau ministre de l'Intérieur. L'Élysée prend acte de la démission de Gérard Collomb, démission qui avait d'abord été refusée hier par le chef de l'État. Une bonne nouvelle pour les salariés de Ludendo, le groupe qui détient les enseignes La Grande Récré va être repris par son PDG, allié à un fonds spécialisé. Le plan de continuation a été validé par le tribunal de commerce. Le groupe de distribution de jouets est en redressement judiciaire depuis le mois de mars. Elle s'était fait passer pour une victime des attentats du 13 novembre à Paris et elle avait touché 20 000 euros du fonds de garantie des victimes de terrorisme. Après 3 ans de mensonges, le parquet requiert 18 mois de prison ferme à l'encontre de cette femme de 32 ans. Elle a demandé pardon ce matin au tribunal correctionnel de Paris. Le jugement sera rendu le 16 octobre. La présidence de l'université de Nanterre, occupée ce soir par une quarantaine d'étudiants. Ils appartiennent au collectif Sans Fac et ils demandent à être reçus par le président. Il reste, selon eux, 150 dossiers d'étudiants sans affectation à traiter. Et puis les footballeurs lyonnais reçoivent le Shakhtar Donetsk dans 10 minutes. Match à huis clos pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Le club avait été sanctionné après des incidents en mars en Ligue Europa. 5 autres matchs sont au programme à 21h.
France Info.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Quel hommage sera rendu à Charles Aznavour? Emmanuel Macron, le président, attendu au sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie, dans une dizaine de jours, serait en discussion avec la famille de l'artiste. Patrick Devedjian s'est dit, lui, favorable à un hommage national. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, avec Jean-Pierre Elkabbach sur CNews.
Oui, je suis favorable. Je trouve qu'il a joué un rôle formidable sur la diffusion de la culture française. Il a exprimé la culture française dans le monde entier, cet émigré, cet enfant d'émigré, avec une force extraordinaire et répond aussi à une problématique de l'heure, l'histoire de identitaire. Il était 100% arménien, disait-il, 100% français, et avec quelle force dans les deux cas.
Bruno Cotterêts, on se souvient évidemment il y a 10 mois des obsèques nationales, en fait populaires, pour Johnny Hallyday. Qu'est-ce serait l'idéal selon vous?
L'idéal, d'une certaine manière, Patrick Devedjian vient un peu dans tracer la ligne, c'est-à-dire un hommage qui rende compte de ce double parcours de Charles Aznavour, dont tout le monde connaissait l'engagement pour la cause arménienne. Et je trouve qu'un hommage national, quelle que soit la forme, que ce soit une forme officielle, au sens vraiment officiel d'hommage national, ou une forme plus spontanée, plus populaire, est évidemment attendue et souhaitable. Alors c'est vrai que la France, avec toutes les tensions que nous avons sur les questions d'identité, sur les questions de qu'est-ce que veut dire être français, notre espèce d'obsession permanente sur cette question qui revient de manière un peu lancinante dans le débat public, c'est vrai que avoir autour d'une personnalité comme Charles Aznavour un moment sur cette question de la manière dont Charles Aznavour l'a incarné, sera évidemment une très bonne chose.
Alors c'était un chanteur universel, on l'a dit et redit hier soir et à juste titre. Souvenez-vous de Mourir d'aimer 1971, c'est après le suicide de Gabriel Russier, cette enseignante qui avait séduit un élève mineur. Il y a eu Je suis un homo, comme ils disent. Romain Mouton, c'était aussi un chanteur qui était capable d'ouvrir des débats sociétaux. Il a compté dans le paysage pour ça aussi.
Oui. Là, je viens de voir sur Twitter que, selon le Parisien, un hommage national sera rendu aux Invalides vendredi. Donc, apparemment, les parlementaires qui réclamaient l'hommage national ont été entendus, notamment. Oui, Charles Aznavour a réussi, on se rappelle, cette chanson « Comme ils disent », dans les années 1970, alors que l'homosexualité était encore condamnée, à faire passer des messages très forts et encore très contemporains aujourd'hui. Et Charles Aznavour, à travers ses différentes chansons, ses différents titres, puisqu'il disait même qu'il commençait par écrire la chanson avant d'écrire la musique, a réussi à se positionner sur des grands sujets de société qui ont fait de lui, au-delà même d'un chanteur, un citoyen engagé et qui a supporté des messages qui font date encore aujourd'hui.
Marion Mourgue, vous êtes toute jeune, mais Aznavour, ça vous parle, j'imagine?
Je pense que ça parle à tous les Français. Et il avait cette expression qui était assez jolie pour décrire sa culture 100% française et 100% arménienne. Il parlait du café au lait en disant « quand on a mélangé, c'est impossible de dissocier les deux ». Et c'est très juste qu'un hommage national est important pour lui.
Emmanuel Pierrat, la France de Charles Aznavour, elle existe toujours?
Oui, elle existe sans doute. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle se reconnaîtrait dans un hommage national. On ne peut pas avoir eu un président de la République qui va à la Madeleine chanter les louanges ou faire les louanges de Johnny Hallyday et puis ensuite passer sous silence la mort de Charles Aznavour. Même si dans les deux cas, il y a le petit côté un peu dérangeant du passé fiscal et des liens compliqués avec les douanes et peut-être, voilà.
C'est un petit peu oublié, ça
peut-être. Bah oui, on peut trouver des citoyens plus exemplaires peut-être à honorer. C'est pas Simone Veil non plus,
Mais décidément, tout le monde.
Non, j'ai beaucoup d'affection, j'ai eu beaucoup de peine hier, beaucoup d'émotions, comme vous tous, je pense. Mais au-delà de ça, il y a Charles Aznavour devait se produire entre guillemets au sommet de la francophonie à Erevan dans même pas un mois,
une dizaine de jours,
devant tous les chefs d'État. Il portait la francophonie et en même temps la capacité à chanter dans des langues étrangères, ce qui est une forme de rayonnement de la France qui me semblait très intéressant. Il portait la mémoire du génocide arménien et ça me semblerait un signe important que de manifester en faveur de cette reconnaissance à nouveau, quel que soit nos liens avec la Turquie et avec le terrible gouvernement de M. Erdogan, à qui on peut peut-être encore vendre des choses, mais ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc il y a une occasion qui serait manquée s'il n'était pas manifesté quelque chose de national
et d'unanime. Nous dire même autant. Bruno Cotterêts, cette France a besoin d'universalité aujourd'hui.
Oui, je crois. Moi, ce qui me frappe dans le débat public français depuis quelques années, c'est l'extrême tension sur toutes ces questions. On voit qu'on ne peut pas passer 6 mois, 3 mois en France sans qu'il y ait eu une nouvelle polémique, une nouvelle débat sur ces questions, sans que quelqu'un ne revienne avec des idées à nouveau à défendre sur ces questions. Je pense que c'est une des caractéristiques de notre pays dans son rapport aujourd'hui au monde global ouvert dans lequel on est. L'élection de 2017 a aussi beaucoup parlé de ces questions. Et je trouve qu'on a besoin effectivement de symboles rassembleurs très fort, de personnalités qui ont toujours été marquées par non seulement leur engagement, mais je pense la très grande générosité d'Aznavour, pas seulement dans son engagement professionnel. J'ai cru comprendre que le centre où va avoir lieu le sommet de la francophonie à Erevan, il avait largement participé au financement de ce centre. Donc ce sont des exemples nationaux et je trouve que c'est bien que notre pays régulièrement rappelle par des hommages, cette galerie de personnages qui sont de véritables exemples.
Merci à vous. Donc il y aura effectivement un hommage national vendredi aux Invalides la Une, du Figaro demain, Marion Mourgue.
Gérard Collomb, avec une interview exclusive du ministre ou ministre démissionnaire et puis la crise dans laquelle l'exécutif est plongé.
À lire donc demain dans le Figaro. Merci Marion Mourgue, merci Bruno Cotrès, Emmanuel Pierra et Romain Mouton. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés sur France Info.